Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Christian Jacob, président des Républicains et député de Seine-et-Marne. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Christian Jacob.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui en direct du grand studio RTL, avec toutes les précautions nécessaires, bien sûr, dans le cadre de cette crise sanitaire. Et à mes côtés aujourd'hui, pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Et Adrien Gindre de LCI. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Vous pouvez toujours réagir en direct, bien sûr, pendant cette émission sur les réseaux sociaux, hashtag Le Grand Jury. Et toutes vos questions seront posées à la fin de cette émission par Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL. Alors Christian Jacob, vous êtes à la tête de la première force d'opposition au Parlement. Vous-même avez été victime du coronavirus et vous en êtes rétabli. On y reviendra dans cette émission. Au début de la crise, vous avez voté les textes d'urgence sanitaire et économique proposés par le gouvernement. Mais cette union sacrée réclamée par le président a fait long feu. Très vite, les Républicains que vous présidez ont critiqué le manque d'anticipation de l'exécutif sur les masques notamment. Mais n'avez-vous pas aussi votre part de responsabilité du temps où vous étiez au pouvoir entre 2007 et 2012? Sous Nicolas Sarkozy, la pression budgétaire, notamment avec la tarification à l'activité, a, dit-on, déstabilisé l'hôpital public. Aujourd'hui, au contraire, vous réclamez un grand plan d'investissement dans nos établissements de santé et même une augmentation importante du personnel soignant sur 5 ans. Des propositions qui figurent parmi les 50 mesures que les députés, les Républicains viennent de lancer, de mettre sur la table dans le cadre du plan de déconfinement et au-delà. Et là aussi, la question est, la rigueur budgétaire que pendant très longtemps vous avez défendue a-t-elle trouvé ses limites? Sur tout cela, nous reviendrons dans cette émission longuement, mais nous commençons bien sûr par les travaux pratiques de ce déconfinement qui sera annoncé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale mardi. La première question vous est posée par Guillaume Roquette.
Oui, il annoncera les modalités concrètes du déconfinement, mais la date, on la connaît, c'est le 11 mai. Est-ce que ça vous paraît être la bonne échéance ou est-ce que c'est trop tardif?
Écoutez, il fallait fixer une date parce que je crois qu'il était important que le calendrier soit posé. Ça permet tout d'abord de s'y préparer, ça permet aux entreprises d'anticiper. J'espère aussi que le gouvernement l'anticipe. Ce que l'on voit dans cette crise, c'est qu'il y a trois éléments. D'abord, elle est sanitaire. Et donc, l'urgence absolue, c'est de trouver les réponses sanitaires. C'est pour ça que nous avons pris des positions pour le fait qu'il y ait une possibilité de tester à la plus grande échelle possible, de se protéger avec les masques, etc. Donc, c'est ça le premier enjeu. Ensuite, elle est économique, c'est-à-dire que plus vite nous aurons les réponses sanitaires, plus vite on peut redémarrer l'économie. Et plus vite on redémarrera l'économie, moins le choc social sera important. Parce qu'il y aura les trois niveaux, sanitaire, économique et social dans cette crise. Donc le fait d'avoir acté une date, je crois, est une bonne chose.
On va détailler tous ces thèmes dans un instant. Juste sur la forme, Benjamin Guillaume y faisait allusion, le Premier ministre va finalement présenter son plan de déconfinement devant la représentation nationale, à l'Assemblée d'abord, puis au Sénat. Est-ce que vous vous dites, satisfecit, on est associé, on est considéré et c'est la bonne manière de procéder?
On est associé. S'il s'agit d'être spectateur, non. Je ne sais pas la manière dont les choses vont se dérouler. Ce qui est clair, c'est que s'il y a un vote à l'issue, on ne va pas voter sur un discours.
Ce sera le cas. C'est un vote sur une déclaration, en l'occurrence.
Oui. Enfin, moi, je souhaite qu'il puisse y avoir un texte et qu'il puisse y avoir un vrai travail parlementaire.
Mais c'est-à-dire vous allez vous abstenir avant justement de discuter avec les élus. Qu'est-ce que vous allez faire?
Non, ce que je souhaite, moi, c'est qu'il y ait un vrai débat au Parlement, un débat digne de ce nom, c'est-à-dire avec une proposition. C'est énorme l'enjeu de cette discussion sur le déconfinement, c'est les réponses sanitaires que l'on apporte à la crise, le plan de relance économique, dont une partie d'ailleurs a été votée avec la loi de finances, et puis le choc social qui s'ensuit. Donc, ça n'est pas anecdotique.
Mais qu'est-ce que vous ne le voteriez pas, non, ce plan de déconfinement, Christian Jacob?
On vote pas un discours, c'est pas le grand oral.
On le fait pour des discours de politique générale, par exemple.
Oui, mais là, en l'occurrence, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un vrai débat avec des propositions des groupes parlementaires, un travail en commission. Et on peut le faire dans des délais, d'ailleurs, assez contraints.
Vous voulez un travail en commission avant mardi?
après, à l'issue, la manière dont ça se passe normalement, on présente un texte. Mmh. Ensuite, il y a un débat en commission et on
vote.
C'est
pas une bonne chose qu'il y ait un vote sur le discours de mardi, si on vous écoute.
Mmh. C'est trop tôt.
C'est-à-dire, on a fait preuve, je crois que tout le monde s'accorde à le dire, à la fois de responsabilité, mais surtout d'être force de proposition. Et c'est ce que nous faisons, ce que le groupe de l'Assemblée vient de faire à l'initiative des parlementaires.
Mais dites-nous juste, est-ce que vous trouvez que c'est trop tôt ? Est-ce que
je ne trouve pas que c'est trop tôt
donc
du tout,
mardi,
mais je trouve qu'il doit y avoir... À l'issue du discours du Premier ministre, il doit y avoir un débat en commission, évaluer les mesures. Alors, on a le droit d'avoir un avis dessus, peut-être les améliorer,
concrètement,
peut-être en reprocher quelques-unes, et ensuite on votera.
Vous le disiez, vos députés, les députés de du groupe LR ont fait des propositions concrètes, notamment une réouverture plus rapide des cafés, des restaurants, parce que c'est prévu jusqu'à présent en juin, et vous dites on peut ouvrir plus tôt, dans les zones où l'épidémie a été peu présente.
En prenant compte les territoires. C'est ça notre proposition, parce que, vous voyez, il y a par exemple le département du Cantal, à ma connaissance, je crois pas qu'il y ait eu un seul cas. Donc on voit bien qu'il y a la nécessité d'avoir ce tandem entre le représentant de l'État, qui doit être le préfet, et ça veut dire aussi qu'il faut renforcer le rôle des préfets par rapport aux autres administrations déconcentrées, de façon à ce que les collectivités territoriales n'aient qu'un interlocuteur et ne passent pas leur temps à faire le tour des différentes administrations. Ensuite, en respectant un cahier des charges, d'ailleurs auquel se sont préparés les cafés, hôtels, restaurants, leur fédération, de voir si l'écartement entre les tables doit être d'un mètre cinquante, de deux mètres, des mesures barrières
par département.
Il faut prendre en compte la réalité des territoires. Et on sait bien que la situation est différente dans un département comme le Cantal, où il n'y a eu aucun cas à ce stade. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Et un département comme le Haut-Rhin, qui a été très touché.
Qui doit décider ? Est-ce que c'est le préfet qui doit dire, dans mon département, il y a eu moins de cas, donc on peut ouvrir ? Est-ce que c'est ça que vous nous dites concrètement, Christophe ?
Avec les collectivités territoriales, il est très important de lier... Vous voyez, on y viendra sans doute sur l'école. On ne peut pas prendre des décisions sans y associer les maires ou les présidents de département.
Mais donc le gouvernement a raison quand il dit que c'est le couple préfet-maire qui va présider à ce déconfinement et qui va décider des situations.
Il ne va pas décider de tout. Il y a des règles nationales. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas voter sur un discours. Et vous voyez bien que tout ça...
Il y aura une stratégie nationale et des plans locaux.
Mérite d'être travaillé. Et encore une fois, on peut le faire dans des délais assez contraints. Ça n'est pas une difficulté invraisemblable, de mon point de vue.
Qu'en est-il des déplacements interrégionaux ? Est-ce qu'il faut les permettre ou pas, Christian Jacob, selon vous ?
À partir du moment où on déconfine, on ne va pas établir des frontières au sein des régions, des départements ou des villes. On sait bien que l'encadrement... Et encore une fois, c'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'avoir un vrai travail de fond sur la proposition de sortie du confinement. Quand on sort du confinement, et c'est essentiel à un moment d'en sortir, on sait qu'il faut anticiper le fait qu'il peut y avoir une deuxième vague.
Et justement, c'est pour ça qu'on parle des déplacements interrégionaux, parce qu'il y a le problème des vacances
C'est pour ça que je voulais vous dire.
Je précise, Christian Jacob, que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent bien, il y a des élus, dont des députés LR comme Julien Aubert ou Philippe Gosselin, qui proposent de décaler les vacances d'été, grosso modo de 15 jours, de les faire de mi-juillet à mi-septembre, pour permettre aux enfants de reprendre plus tard et aux Français, justement, de profiter d'un bout d'été pour protéger cette économie touristique, restauration, etc., dont on parlait à l'instant. Vous partagez-vous cette position ?
Je pense que c'est très compliqué, là, pour le coup. C'est compliqué pour les rentrées scolaires. Parce que comment on cale la rentrée scolaire derrière tout cela ? Donc, je reste
vous n'êtes pas forcément d'accord avec ces deux députés.
Elle n'est pas dans les 50 propositions d'ailleurs.
Mais attendez,
on est à un moment où il y a tout l'intérêt d'avoir une discussion. Nous l'avons fait au moment de la loi de finances rectificative. Un certain nombre de propositions ont été d'ailleurs reprises par le gouvernement. L'abaissement sur la diminution du chiffre d'affaires lié au Covid, lorsqu'une entreprise, il fallait pour bénéficier d'une aide qui est une baisse de 70% du chiffre d'affaires, nous l'avons ramené à 50%. C'est une initiative qui a été prise par les députés, les Républicains. L'abaissement de la TVA sur les masques, c'est une initiative des députés, les Républicains. L'annulation des charges pour les TPE, c'est une initiative des députés des Républicains. Mais il y a beaucoup. Et mais qui ont été repris.
On a l'impression que ça part un peu dans tous les sens.
Non, c'était un débat justement sur la loi de finances qui était constructif.
Par exemple, Guillaume Pelletier propose ce matin, toujours dans le cadre des vacances scolaires puisqu'on en parle, Guillaume Pelletier qui est votre numéro 2, enfin l'un de vos numéros 2, il veut diviser le prix des autoroutes par deux pendant l'été.
Il met cette proposition, c'est pas nouveau de la part de Guillaume Pelletier sur les autoroutes. Il met cette proposition sur la table et c'est bien, mais c'est pour ça que, vous voyez, on a besoin d'avoir ce débat. Et encore une fois, à l'Assemblée, on sait fonctionner.
Mais vous êtes chef du parti. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là?
Je pense que c'est une proposition qui mérite tout à fait d'être posée sur le débat parce que si on veut effectivement que la destination France soit favorisée au maximum, eh bien, il faut permettre aux Français, dans les meilleures conditions, de pouvoir prendre des vacances à un moment où ils vont avoir une baisse de
leur... Et Guillaume Pelletier dit attention, si vous ne baissez pas les prix, impôt exceptionnel. Bon.
Ça, je suis moins favorable. D'une manière générale, je ne suis pas favorable à l'impôt et à l'augmentation d'impôts. Je pense, vous voyez, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, si la dépense publique était un gage d'efficacité, ça se saurait. La France est la championne du monde de la dépense publique. Et quand on compare nos résultats, notamment dans l'hôpital ou ailleurs, avec, par exemple, les résultats en Allemagne, on voit bien que c'est pas plus on a de dépenses publiques, plus on est efficace.
Bon, on va y revenir,
c'est
parce que
parfois,
vous en
bien souvent,
aussi.
Le contraire.
Et encore une question.
Donc, il n'y a pas besoin d'impôts en plus. Ça, c'est très clair.
Encore une question sur les vacances pour les Français qui voudraient partir en Italie ou en Espagne. Est-ce que, pour vous, il faut ou non laisser des frontières entre les pays européens?
Il faut laisser les frontières, bien évidemment.
Et les laisser fermer, pour être plus concret.
Il faut contrôler. Les fermer, moi, je ne suis pas favorable à la fermeture absolue des frontières, mais je pense qu'il faut un contrôle accru, d'abord pour l'industrie du tourisme, hein, vous l'évoquiez. La France est une grande destination touristique dans le monde. Donc, si on fait un repli nationaliste tel que le propose le Front National ou l'extrême gauche, on voit bien que ça n'est pas la réponse, parce qu'on a besoin aussi d'avoir des estivants qui viennent. En revanche, ils doivent être contrôlés au moment où
alors
ils rentrent
sur le territoire.
Alors, de
comment vous les contrôlez?
Une des propositions que nous avons faites, c'est les premiers contrôles de température, de destination, de savoir où ils vont. Je pense qu'il y a les moyens de mettre en place
les contrôles.
Et
on refoule ceux qui ont de la température?
On ne refoule pas, mais ils font l'objet d'un examen supplémentaire pour s'assurer. Et s'ils ont effectivement le Covid, s'ils sont contagieux, il y a des mesures d'isolement à prendre. C'est un des moyens. Vous savez, ça se
c'est
fait.
C'est un moyen dissuasif, en fait.
C'est pas un moyen dissuasif, c'est un moyen de vérifier, de mettre le maximum de moyens de protection à notre disposition.
Alors, revenons sur le national et bien sûr la question de l'école. Adrien Gindre.
Avec là encore des questions de contrôle, puisque cette fois, dans le livret préparé par les députés et les Républicains, il y a question du dépistage systématique des professeurs, des prises de température pour les élèves. Ça vous paraît réaliste, faisable à quelle échelle? Est-ce qu'on va pouvoir, de votre point de vue, à partir du mois de mai, contrôler tous les professeurs et la température de tous les élèves de France? Est-ce que ce sera le cas, par exemple, dans votre commune à Provins?
À partir du moment où on a les masques et les tests, on peut le faire. Regardons ce qui s'est passé là aussi dans les pays voisins. Je prenais l'exemple de l'Allemagne tout à l'heure. L'Allemagne a choisi une stratégie différente de la nôtre, hein, avec des tests, non pas de manière générale, mais de manière beaucoup plus importante, de tester beaucoup plus de monde et distribuer beaucoup plus de masques. La réalité aujourd'hui, c'est que sur un nombre de malades à peu près équivalent, on est en France à peu près à 20 000 décès liés au Covid. Les Allemands sont autour de 5 000. Donc, ce qui veut dire
la logique de
tester le maximum de gens et de protéger au maximum. Moi, je reprends la proposition qui est faite par un de nos éminents professeurs, par Philippe Juvin, qui dit sur les...
Et les Républicains également.
Oui, c'est une qualité supplémentaire.
qui dit Pompidou à Paris.
Aussi.
On est très complémentaire.
Voilà. mais qui dit qu'un masque, bien entendu, il faut qu'il soit bien évidemment de la meilleure qualité qu'il soit, de protection. Mais quel qu'il soit, il protège toujours. Et c'est mieux d'avoir un masque que de ne pas en avoir.
Mais donc vous dites que l'État français
donc c'est du bon sens.
A failli, si vous faisiez le
parallèle. Je ne dis pas que l'État français a failli. Je fais le constat aujourd'hui qu'on peut tous faire ensemble. Mmh. Vous avez les mêmes chiffres que moi. Mmh. La réalité, même nombre à peu près de malades en Allemagne qu'en France. À ce stade, alors je le dis avec toute la prudence qui convient, on est à peu près à 5000 décès identifiés liés au Covid. Nous sommes à 20 000 en France. C'est un constat. Ce n'est pas une critique gratuite. Voilà.
Mais sur l'école.
Et donc, c'est pour ça que je considère que plus on peut tester, oui. À partir du moment où on déconfine, encore une fois, on prend le risque, et que l'on doit assumer, d'avoir un risque de deuxième vague. Donc pour anticiper au mieux cette deuxième vague, il faut trois choses. La première chose, avoir le plus généralisé au maximum, autant que possible, le test de gens qui sont en contact avec le public. Deuxième élément, généraliser là où on le peut, dans les plus meilleures conditions, les masques. Troisième élément, réarmer l'hôpital. C'est essentiel. C'est-à-dire reconstituer les stocks dans les hôpitaux.
On va y revenir. Médium Roquette, d'abord.
Je voudrais revenir sur l'hôpital.
Sur les tests et sur les masques, le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez, vous le savez. François Bayrou, au grand jury la semaine dernière, nous disait, moi, localement, à Pau, nous avons commandé des tests et des masques. Est-ce que vous avez fait la même chose à Provins?
Oui.
Vous n'êtes plus élu.
Oui. Mais j'ai un excellent maire à Provins, donc, qui le fait, qui s'est préoccupé avec l'aide de la région, d'ailleurs, la région Île-de-France.
Il y aura ces tests,
Il y a aussi besoin d'une décision de l'éducation nationale. C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'avoir un cadre national qui soit fixé. Si on n'a pas le cadre national pour le fixer, les professeurs ne sont pas obligés de s'y soumettre. Et on a besoin de l'État pour nous les fournir. Ça veut dire qu'il
pour
faut avoir
payer,
des réactifs.
C'est à l'État de payer tout ça, les masques, les tests. Vous considérez qu'il doit financer?
Il peut y avoir un partage, mais je pense qu'il y a la nécessité d'une protection qui soit la plus large possible. Les collectivités territoriales ont fait les avances. On en a acheté beaucoup aujourd'hui. Sur les tests, ça a tardé beaucoup. Nous avons pris, par un arrêté municipal à la province, la décision, par exemple, de tester les EHPAD. Nous l'avons fait dans l'EHPAD public. Bon, il y a deux EHPAD privés où je crois que c'est en train de se faire, mais l'EHPAD public a été
fait. Est-ce que vous demanderez au gouvernement de vous rembourser sur toutes ces sommes investies localement, ou est-ce que vous estimez que c'est de la responsabilité aussi d'élus locaux?
De toute façon, à la fin des fins, vous savez, c'est le contribuable qui paye. Il n'y a qu'une seule poche. Hein.
Ouais, on reviendra justement sur les impôts, mais pour toujours sur l'école, parce que c'est important. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes des enseignants? Est-ce que vous pensez aussi, vous comprenez la possibilité d'exercer un droit de retrait s'ils ne se sentent pas en sécurité, ces enseignants?
Écoutez, sur le droit de retrait, il est prévu, il est normal, il est hors de question de le remettre en cause. Simplement, il doit avoir un caractère exceptionnel. Imaginez que nos infirmières, nos médecins, nos aides-soignants aient fait valoir leur droit de retrait, dans quelle situation on serait aujourd'hui? Ça existe, très bien, mais ça doit être dans un cadre très exceptionnel.
Et une dernière question peut-être sur l'école, ce sera sur la base du volontariat, c'est-à-dire que les parents pourront choisir d'envoyer ou non leurs enfants à l'école, ça vous paraît une bonne décision?
Moi, je suis très sceptique. Je comprends bien l'idée du volontariat. Ceci étant, vous voyez, à partir du moment où on est dans le volontariat, ça va vite compliquer les choses aussi pour les collectivités. Raison d'ailleurs pour laquelle on propose, dans nos propositions, de ne pas réouvrir les cantines. Mmh. Parce que comment vous faites pour commander la cantine lorsqu'on est sur la base de volontariat? On a besoin de prévoir...
Mais il y aura d'élèves à l'avance.
Et si on ne rouvre pas les cantines, on laisse ouvert un sujet qui est l'inégalité sociale devant le confinement, qui est l'une des préoccupations du gouvernement aujourd'hui, de dire qu'aujourd'hui, il y a des familles qui ont du mal à nourrir leurs enfants à la maison parce que la cantine, ça coûte quand même beaucoup moins cher souvent.
Oui, on a aussi des allocations familiales. La responsabilité d'un parent, c'est d'abord de nourrir ses enfants et la politique familiale est là pour ça. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours défendu la politique familiale au moment où le gouvernement lui a porté des coups de canif. D'ailleurs, pas que celui-ci, celui de François Hollande, avant.
Donc vous dites, qu'est-ce qu'il faut en aide.
Moi, je ne vois pas... c'est là qu'on voit bien la difficulté. C'est-à-dire on va ouvrir des cantines avec 200 ou 300 élèves qui vont déjeuner ensemble dans une cantine et on va fermer le restaurant qui sert 30 couverts. Tout ça me paraît...
Il y a aussi la question des transports. Vous êtes en Île-de-France, C'est assez majeur. Est-ce qu'il faut rendre le masque obligatoire dans les transports en commun?
Je pense que oui. Je pense que oui, parce que, vous savez, les gestes barrières et de distance dans les transports, quand les transports en Île-de-France marchent à 100%, vous savez dans quelle situation de confinement on est dans le métro ou dans les bus. S'ils fonctionnent, comme je l'ai entendu, à 70%, ça va être effectivement très, très, très compliqué.
Et vous l'appliquez donc, au-delà je pense des que transports
comment ?
Vous l'appliquez au-delà des transports ? Est-ce que pour vous, il faut que le masque soit obligatoire dans tout l'espace public, tous les lieux où on est susceptible de croiser des gens, c'est-à-dire y compris
Je pense dans les surfaces commerciales importantes, dans un certain nombre d'endroits où il y a une densité de population importante. Si vous promenez tout seul dans une rue et que vous croisez personne, bon...
Au siège de votre parti, par exemple, vous allez demander le port du masque obligatoire à partir
Écoutez, pour le moment, on travaille, et je pense d'ailleurs que ça va changer beaucoup, hein, les choses. On travaille uniquement en visioconférence, donc ça présente des avantages, mais enfin, beaucoup d'inconvénients aussi. Hein.
Vous allez poursuivre
Non, mais je pense qu'il y aura un avant et un après. C'est-à-dire qu'on a tous découvert qu'on pouvait faire du télétravail. Alors, ça ne répond pas à tout et il y a besoin de temps en temps d'avoir un contact direct, comme au grand jury. Mais ceci étant, je pense que les choses vont évoluer et on va découvrir effectivement le télétravail. On a toujours été très réticents en France, on a toujours eu beaucoup de mal. Et on s'aperçoit que les gens travaillent en fait beaucoup aussi de cette manière-là et efficacement aussi, reconnaissons-le.
Alors, je disais en introduction de cette émission, Christian Jacob, que vous avez été victime du coronavirus. Hein, et vous allez visiblement mieux aujourd'hui, vous nous le confirmez. La crise est
plutôt l'air
passée.
D'aller
oui,
bien.
Oui, tout à fait. Je le confirme. Est-ce que vous regrettez que le premier tour des élections municipales, où beaucoup de gens disent avoir été contaminés à ce moment-là, ait été maintenu ?
Écoutez, sur les informations que l'on avait, il faut toujours se remettre dans le contexte de l'époque. Sur les informations qu'on avait, qui étaient celles que nous donnait le Premier ministre, puisque ces informations émanaient du Conseil scientifique, et le Premier ministre et le Président de la République avaient l'exclusivité de ces informations. Donc les informations qui nous ont été données à ce moment-là par le Premier ministre, et par le Président de la République et par les différents ministres, c'est que rien ne s'opposait à la tenue de ce premier tour. C'est le Conseil scientifique qui le disait, à condition que les gestes barrières soient respectés. Et nous avions une réunion avec tous les présidents de partis politiques, présidents des groupes parlementaires de toutes les formations. Et à la lumière de cette information, personne ne l'a contesté. Est-ce que le Premier ministre vous l'a donné ?
Vous ne regrettez pas de ne pas avoir à l'époque plus fortement demandé ?
Quand on regarde les choses à la lumière d'aujourd'hui, effectivement, on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur à ce moment-là ? Sauf que dans au moment où la décision est prise, les informations qui nous sont données à ce moment-là, par, entre autres, le Conseil scientifique, nous expliquent qu'il n'y a pas de risque, à condition de respecter les gestes barrières.
Le gouvernement était de bonne foi pour vous. Le gouvernement était de bonne foi pour vous. Il n'y a pas là, vous considérez d'erreur politique.
Non, moi je pense que le gouvernement était de bonne foi. Enfin, je ne peux pas imaginer d'ailleurs qu'il en soit autrement. On ne va pas être dans ce type de suspicion. Les informations ont été partagées avec toutes les formations politiques. Personne n'a contesté ces informations. Et alors, on n'y avait pas accès, mais je veux dire, il n'y a pas de raison de contester.
Il y a eu beaucoup d'élus, les Républicains. On sait que les élus locaux organisent le vote beaucoup, sont dans les bureaux. Il y a beaucoup d'élus qui ont été atteints par le coronavirus le jour du premier tour.
Ça, je ne peux pas vous dire, parce qu'on ne sait jamais par définition quand est-ce qu'on a été contagieux, à quel moment. Ce que je peux vous dire, là, le seul chiffre que j'ai sur les élus, pour ce qui est des parlementaires, mais il semble qu'il y ait eu un cluster à l'Assemblée nationale, sur notre groupe de députés, il y a à peu près 15% des députés qui ont été touchés, donc ce qui est une proportion importante. Mais il y a, semble-t-il, eu un cluster au sein de l'Assemblée.
Ils sont tous tirés d'affaires.
Oui. Certains ont été beaucoup plus... Moi, je fais partie de ceux qui l'ont pas... je n'ai pas été touché gravement, mais certains collègues l'ont été beaucoup plus. Mais ils vont beaucoup
que
mieux.
Faut-il faire maintenant de ces élections municipales ? Quand faut-il les organiser ? Est-ce que c'est au mois de septembre ? Ou est-ce que vous pensez que ça peut attendre les régionales de l'année prochaine ? Quelle est votre position, Christian Jacob ?
D'abord, il y a deux choses. Moi, il y a une demande que j'ai déjà formulée à trois reprises au Premier ministre, et je ne comprends pas que ça ne soit pas mis en application. C'est d'abord d'installer les 30 000 maires. Il y a 35 000 communes en France, il y a 30 000 conseils municipaux qui ont été installés au premier tour. Élus dès le premier tour.
Et pas encore installés.
Et il faut les installer d'urgence. Parce qu'à chaque fois que vous preniez du retard pour installer ces conseils municipaux.
Mais là, les conditions sanitaires sont réunies, de votre point de vue,
mais,
pour le
faire. Mais la majorité des conseils municipaux, c'est 15 personnes. Est-ce qu'il y a une commune en France où il n'y a pas la capacité de réunir 15 personnes et de les mettre à 2 mètres l'une de l'autre pour élire un conseil municipal ? Quand vous allez au supermarché, il y a plus de 15 personnes dans la salle du supermarché. Donc, il y a une urgence absolue. Mmh. Pourquoi il y a cette urgence ? Cette urgence, elle n'a rien à voir avec la politique. Elle est purement économique. À partir du moment où les collectivités territoriales ne peuvent pas délibérer valablement, on reporte la dépense, la commande publique. Et quand on voit que des secteurs comme le bâtiment ou les travaux publics sont très dépendants de la commande publique, chaque jour de retard qui est pris pour installer ces 30 000 conseils municipaux, ce sont des jours de retard pour la commande publique.
Alors, ça, on a compris.
Et donc,
pour
je vais aller au bout.
Pour ceux qui n'ont pas été élus.
Mais je veux aller au bout parce que ce sont des entreprises qu'on est en train de fragiliser et des milliers de chômeurs qu'on est en train d'additionner parce qu'on prend du retard pour installer ces 30 000 maires. Il y a une urgence absolue à les installer.
Sur
le reste, moi je l'ai dit à plusieurs reprises et redit au Premier ministre, dès que les conditions sanitaires le permettent, il faut le faire dans les meilleurs délais. On aura le 23 mai au plus tard un rapport qui sera fait par le conseil scientifique, et à partir de là,
dans la foulée,
il faut, dès que les conditions sanitaires sont réunies, le faire. Si c'est possible en juin, c'est de loin préférable. Parce que au-delà de cela, au-delà des 30 000 maires, il y a les 5 000 maires supplémentaires, et donc de cela va dépendre les EPCI, les intercommunalités, qui détiennent la compétence économique. Donc là aussi, sur la commande publique, c'est un enjeu déterminant. Si ça n'est pas possible en juin, il y a une proposition de l'AMF, moi, qui me semble tout à fait équilibrée, qui est de dire de le faire en septembre.
Oui,
l'Association des maires de France, qui est de le faire en septembre. Je pense que c'est la bonne position d'équilibre si on ne peut pas le faire en juin. L'idéal, c'est le plus rapidement possible. Mais si les conditions sanitaires ne sont pas là, faisons-le en septembre.
Si c'est septembre, ça veut dire que vous passerez une partie de l'été à faire campagne dans les 5000 villes restantes.
Oui, si c'est septembre, oui, ça décalera d'autant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas sur un enjeu de politique politicienne. On est sur un enjeu éminemment économique. De cette décision vont dépendre des milliers et des milliers et des milliers d'emplois.
Alors justement,
c'est ça la réalité.
On arrive quasiment à la mi-temps de cette émission. Est-ce que vous avez globalement l'impression que le gouvernement fait ce qu'il faut, qu'Emmanuel Macron et son Premier ministre Édouard Philippe sont à la hauteur de la situation ?
Dans la gestion économique de cette crise.
Notamment.
Le moins qu'on puisse dire, c'est bon, il y a eu quand même une vraie confusion. Sur les décisions, l'équilibre d'ailleurs, on le sent, les uns et les autres dans les différents organes de presse, ça ressort des tensions entre l'Élysée et Matignon et entre Matignon et les ministres. Là, par exemple, vous voyez, sur le déconfinement, le Premier ministre avait prévu de l'annoncer dans 8 jours, mais il est doublé par certains de ses ministres qui se précipitent pour annoncer les mesures, donc du coup, il est obligé d'anticiper. Le président de la République, qui, dans le fonctionnement normal de nos institutions, fixe le cap. Et ensuite, le Premier ministre met en place la politique qui correspond à ce cap. Le président de la République veut intervenir à chaque fois dans la
décision de la politique. Comment vous expliquez cette confusion ?
C'est le bazar ?
Je ne dis pas que c'est le bazar, mais je dis que pour le moins, il y a de la confusion quand même, et qui saute aux yeux de tout le monde. Et la confusion génère une moindre efficacité, c'est évident.
Est-ce que vous-même, vous avez été consulté, associé à la préparation en tant que représentant d'une force politique ces derniers jours, ces dernières semaines ?
Absolument rien. On a eu une réunion avec le Premier ministre, et qui est utile d'ailleurs. J'ai félicité le Premier ministre d'avoir cette initiative, mais le Premier ministre fait une déclaration d'ouverture. Ensuite, chaque président de parti à quelques minutes pour donner son avis, et puis la réunion est terminée. C'est pour ça que, vous voyez, sur la déclaration sur le déconfinement, ça ne peut pas être une déclaration. Il faut qu'il y ait un débat, qu'on travaille sur un texte, qu'on ait une proposition.
Et là, il sera insuffisant, le débat.
On l'a été au moment de la loi de finances rectificative. Nous n'avons pas été dans l'opposition systématique. On a été force de proposition. Et on a su, à certains moments, être capable de convaincre certains élus de la majorité de se ranger à nos propositions. C'est ça, le bon travail parlementaire.
On y revient dans la deuxième partie de l'émission, notamment en parlant du tracking pour détecter les porteurs du coronavirus. À tout de suite après une pause.
Ensemble à la maison avec M6. Inédit du lundi au vendredi à 18h45, tous en cuisine avec Cyril Lignac.
Je suis en train de m'échauffer parce que ce soir, j'ai sorti 2 super recettes et j'ai envie de les partager avec vous.
En direct depuis sa cuisine, Cyril Lignac, accompagné de Jérôme Anthony, vous propose un moment convivial et gourmand à vivre en famille. Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac, du lundi au vendredi à 18h45 sur M6.
Oh, 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 M6. Carrefour. À période exceptionnelle, mesure exceptionnelle sur les prix. Chez Carrefour, nous bloquons les prix de 5500 produits du quotidien. 500 produits de marque nationale qui en plus sont à prix imbattable. Et 5000 produits de marque Carrefour sur lesquels vous pouvez en plus bénéficier de moins 10% tous les jours avec votre carte de fidélité. Avec 5500 prix bloqués, nous restons mobilisés aussi pour votre budget. Carrefour.
Prix bloqués à partir du 6 avril et jusqu'à la fin du confinement. Remise de 10% crédité sur votre compte fidélité sur présentation de votre carte Carrefour et après adhésion sur carrefour.fr. Par condition et magasin participant sur carrefour.fr.
RTL, il est midi et demi. Un point sur l'actualité avec vous, Thomas Dulin. Bonjour Thomas.
Bonjour à tous. Dans quelles conditions se fera la reprise de l'école à partir du 11 mai? Le conseil scientifique livre des recommandations très strictes. Port du masque obligatoire au collège et au lycée. Des repas servis dans les classes. Une rentrée qui doit se faire de manière progressive et sur la base du volontariat, ajoute le conseil scientifique. Un avis rendu avant la prise de parole d'Édouard Philippe devant les députés mardi à 15h. Il doit détailler son plan de déconfinement avant un débat et un vote à l'Assemblée. Il y a quelques minutes, dans le grand jury RTL Le Figaro LCI, Christian Jacob prévient déjà, on ne votera pas sur un discours, on veut de vraies propositions suivies d'un travail en commission. Le président des Républicains qui se dit par ailleurs favorable à une réouverture des bars et restaurants territoire par territoire. La CNIL demande certaines garanties supplémentaires de protection de la vie privée avant le lancement de l'application de traçage gouvernemental Stop Covid. La Commission nationale informatique et liberté la juge par ailleurs conforme aux exigences européennes. Après des critiques notamment françaises sur la mauvaise qualité du matériel médical exporté par la Chine, les autorités chinoises veulent dissiper les craintes. Elles ont assuré aujourd'hui avoir saisi quelque 89 millions de masques non conformes et plus de 400 000 pièces d'équipement de protection. Au niveau mondial, la barre des 200 000 morts du coronavirus a été dépassée. Les États-Unis reste le pays le plus touché avec plus de 53 000 décès. En France, 369 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19 au cours des dernières 24 heures.
Pascal Pro sur RTL, les auditeurs ont la parole.
Restez chez vous, mais appelez-nous. Confinement, mode d'emploi, racontez-nous vos questions, vos plaisirs, vos angoisses. 32-10, tous les jours entre 13h et 14h. Les auditeurs ont la parole.
Les auditeurs ont la parole avec Pascal Pro. C'est du lundi au vendredi à 13h sur RTL.
32-10, 50 centimes la minute.
Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le président des Républicains et député de Seine-et-Marne, Christian Jacob. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI qui vous pose, Christian Jacob, la première question de cette seconde partie.
Sur la Chine et l'OMS qui sont toutes les deux pointées du doigt depuis plusieurs semaines, d'ailleurs le vice-président délégué de votre parti Guillaume Pelletier estime qu'elles ont toutes les deux menti, autant la Chine que l'OMS. Et il propose un tribunal sanitaire international pour juger la Chine. Est-ce que ce sont des propos que vous partagez, des propositions que vous soutenez?
C'est une proposition d'ailleurs qu'avait fait déjà Guillaume Pelletier, si j'ai bonne mémoire, dans son dernier livre.
Et je
pense qu'il y a la nécessité de faire la lumière absolue. Alors, je ne sais pas, c'est la forme d'un tribunal. En tout cas, là où je rejoins complètement Guillaume Pelletier, c'est qu'il faut effectivement qu'il y ait une transparence. Il y a une suspicion qui n'est pas supportable.
Elles ont menti, l'OMS et la Chine, de votre point de vue?
Écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que les informations ont été, si on veut être prudent, ont été pour le moins évolutives. Entre les premières déclarations en Chine, celles qui s'en sont suivies. Après, de quelle manière l'OMS a pu contrôler ce qui avait été dit par la Chine ou pas, moi, on ne peut pas rester dans l'incertitude, il faut la transparence, et c'est ça la volonté de Guillaume Pelletier, et ça je la partage.
Et le président américain qui annonçait il y a quelques jours la suspension de la contribution américaine à l'OMS, est-ce que c'est une bonne manière de procéder? Est-ce que la France devrait le suivre?
Bon, je pense qu'on a besoin d'avoir une organisation mondiale de la santé qui soit forte et qui soit justement capable de travailler en toute transparence. Donc il y a sans doute des enseignements à tirer et très vraisemblablement des dysfonctionnements. Il faut faire la lumière dessus, mais c'est pas en coupant les vivres qu'on va y répondre. En revanche, en étant beaucoup plus exigeant et en regardant s'il y a eu effectivement des responsabilités et mensonges.
Alors on revient sur la France et une actualité de cette semaine, Guillaume Roquet.
Oui, il y a depuis plusieurs jours, ou plutôt depuis plusieurs nuits, des poussées de violence dans certaines banlieues avec des attaques de la police. Ces troubles sont limités, dit le gouvernement. Est-ce que vous partagez ce constat ?
Écoutez, ce qui nous remonte du terrain, c'est que malheureusement, je ne pense pas qu'il soit limité. Et on voit bien que c'est sous tension dans de plus en plus de villes. Éric Ciotti, chez nous, qui suit ces sujets de près, me faisait part il y a quelques jours de son inquiétude, des remontées de terrain et des services de police, effectivement. Il y a eu, et ça n'a jamais été... Enfin, la sécurité, on ne peut pas dire que c'était une priorité de ce gouvernement. Du moins, ça ne s'est pas vu. Et donc, on a vu tous les chiffres de la délinquance augmenter, de la criminalité dans tous les secteurs. Et on voit que dans cette période, eh bien, il y a des tensions dans un certain nombre de villes.
Mais c'est contenu. Le gouvernement dit c'est contenu. Vous avez l'impression qu'il minimise, minore.
Écoutez, j'ai pas le sentiment que ce soit contenu. Du moins, les informations qui nous remontent font plutôt penser au contraire. De la même façon que d'ailleurs sur un autre sujet, hein, mais qui est lié à celui de la sécurité, sur les libérations anticipées dans les prisons. On a eu 10 000 libérations.
C'est une preuve de faiblesse sur ces sujets, de votre point de vue ?
Écoutez, 10 000 libérations anticipées sur 60 000 places en prison. Si j'ai bien compris, on se prépare en fait à la fin du confinement, on sera à 10 000 supplémentaires.
Et pour des raisons sanitaires, soit de personnes qui arrivaient en fin de peine, soit
oui,
qui étaient
oui,
en fin de...
Oui, mais on a aussi la justice qui est à l'arrêt complet. J'avoue que j'ai un peu de difficulté à comprendre pourquoi la justice est à l'arrêt complet. La justice, il y a aussi des moyens dématérialisés avec lesquels elle pourrait travailler. Donc je pense que dans ce domaine, on a un ministre de l'Intérieur qui n'a pas pris, à mon avis, la mesure de la situation explosive qu'il y avait dans un certain nombre de quartiers, et une ministre de la justice qui a vite baissé les bras sur le travail et l'efficacité qui devrait être celle de son ministère. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi toutes les juridictions sont à l'arrêt. Je comprends qu'il y a besoin à certains moments d'avoir effectivement un contact.
Si vous aviez été au pouvoir, il n'y aurait pas eu libération de ces 10 000...
Écoutez...
Non, mais parce que c'est vrai qu'on a besoin de savoir ce que vous feriez vous.
Oui, mais bien sûr. Mais pas dans...
très importante.
Mais pas dans ces conditions-là, effectivement. Je pense qu'il faut y être attentif. Il y avait des mesures décidées sur des fins de peine qui étaient des fins de peine courtes, où on peut le comprendre. Mais moi, quand on me parle du chiffre de 20 000 sur 60 000 places en prison, je me dis quand même, ça mérite
alors
de s'interroger.
Une dernière question sur la sécurité. Est-ce que ça veut dire que vous voulez des couvre-feux d'ici la fin du confinement en certaines villes de France ? C'est ça votre quartier ?
Il faut laisser la possibilité aux maires, en lien avec les préfets. Encore une fois, on a le couple préfet et maire qui doit fonctionner. Le maire connaît sa ville, connaît ses quartiers, sait si cette mesure est utile ou pas. Il ne s'agit pas de la généralité.
Mais vous ne trouvez pas qu'il y a un peu de zèle de la part de certains élus locaux qui veulent absolument faire plus dans ce genre de situation et qui sont aussi en période d'élections municipales à venir.
Généraliser, vous faisiez référence à ma ville, moi j'ai un maire qui a été élu à plus de 60% au premier tour. Donc,
non mais dans certains cas, ce n'est pas encore le cas.
Et ça n'est pas le cas, et on n'a pas prévu du tout de le faire à Provins. Il n'y a rien qui justifie. Mais de dire que cet outil doit être à disposition des maires en fonction de la situation de leur ville, parce qu'ils la connaissent, oui. Et c'est encore une fois le couple préfet et maire qui doit fonctionner.
Autre question, Guillaume Roquet.
Les syndicats de police ont fait état d'instruction du responsable de la police d'un département, le Calvados, de ne pas intervenir dans les rassemblements qui peuvent avoir lieu avec la période du Ramadan. Alors, ensuite, au niveau national, cette information a été démentie, c'est-à-dire qu'il y a eu un contre-ordre, mais comment est-ce que vous réagissez à ce type d'initiative ?
Je pense que si ça a été le cas, c'est très inquiétant. Alors bon, il y a eu, comme vous dites, contre-ordre, contre-information, donc bon, laissons le bénéfice du doute, mais enfin, si, je pense que si cette information est remontée des syndicats de policiers, elle ne vient pas de nulle part, c'est que ça a bien existé à un moment ou à un autre. Moi, ce que je pense sur les cultes, c'est qu'à partir du moment où on s'engage dans le déconfinement, eh bien, il faut effectivement, on le voit dans les deuils liés au coronavirus, mais les deuils d'une manière générale, de ne pas pouvoir faire d'accompagnement religieux, c'est un traumatisme souvent. Donc tant qu'on est confiné, on peut le comprendre, mais si on va sur des déconfinements, il faut se poser la question des offices religieux et de pouvoir accompagner ces défunts dans les meilleures conditions.
Ça veut dire qu'il faut autoriser les messes dès le 11 mai, comme beaucoup de prêtres le réclament dans une tribune du Figaro Paris hier.
Je pense que à partir du moment où on déconfine, et encore une fois, si on autorise des rassemblements, il ne doit pas y avoir de régime spécifique.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on autorise des rassemblements religieux à partir du 11 mai? Est-ce que vous le souhaitez?
On va voir la proposition qui va être faite par le gouvernement. Moi, ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où on respecte les gestes barrières et qu'on n'est pas sur des concentrations trop importantes de population, et avec les distances qui conviennent, c'est-à-dire des distances entre 1 et 2 mètres entre chaque personne, à mon avis, il est normal que les messes puissent reprendre dans ces conditions-là de respect des gestes.
Pour toutes les autres confessions également.
Oui, bien sûr.
Parfait. Une question, Adrien Jean. Sur le déconfinement. L'un des outils que le gouvernement pourrait utiliser, il nous le dira mardi, c'est cette application Stop Covid pour faire du traçage via l'utilisation des téléphones portables, du Bluetooth. Est-ce que vous y êtes favorable? Quelle est la position des Républicains sur cette question?
Je suis extrêmement réservé sur cette proposition. Moi, je pense que l'urgence aujourd'hui, objectivement, c'est les masques, les tests, et de réarmer notre hôpital.
Pourquoi?
Parce qu'on voit toutes les dérives qu'il peut y avoir. D'ailleurs, l'avis de la CNIL, même si la
CNIL... La Commission nationale d'informatique et liberté, qui peut
merci.
Tomber.
Si elle... habituellement, c'est moi qui reproche aux autres d'utiliser les sigles, mais vous avez raison. Notre Commission nationale d'initiative et liberté, si, informatique et liberté, si elle reprend justement certaines propositions en disant c'est bien d'encadrer, elle soulève tous les risques qu'il peut y avoir. Et le risque d'accoutumance et d'utilisation sur des fins que personne ne souhaite. On est en France, dans un pays de liberté. Et donc, moi, je suis très attaché à cela. Donc, faisons d'abord, répondons par les tests, par les masques, par les mesures sanitaires, dotons les hôpitaux correctement, et après on verra s'il y a besoin
de vote dans votre groupe sur ce sujet-là.
Oui. Mais maintenant, alors j'ai cru comprendre que tout cela allait avoir une déclaration commune. Et là aussi, il faut qu'il y ait un texte, on ne va pas voter sur un discours.
Vous aurez un vote dès...
Écoutez, je vous ai fait part de ma proposition. Moi, je souhaite qu'il y ait un travail sérieux de l'Assemblée et que les parlementaires puissent s'exprimer. On pourrait même imaginer qu'il y ait des votes à distance. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus quelque chose d'invraisemblable.
Parce qu'il n'y aura que 75 députés dans l'hémicycle.
Alors, on en vient... invraisemblable sur un sujet comme celui-là, que les 577 députés puissent voter.
Ah, donc vous voulez que ça se fasse avec...
Je dis que ça mérite...
Par visioconférence, non.
Mais on peut très bien imaginer, qu'on ait un vrai travail en commission.
Oui.
Parce que moi, je souhaite que l'on puisse débattre, faire des propositions, qu'elles puissent être prises le cas échéant. Et ensuite, sur un sujet comme celui-là, je trouve dommage qu'on vote à 75 députés.
Bon. On en vient à l'issue de la crise et les solutions que vous voulez y apporter. Et notamment, parce que c'est vrai que dans votre groupe, eh bien, il y a des propositions qui viennent un peu de partout, ça foisonne. Alors peut-être que vous allez nous dire, vous, ce que vous en pensez. Par exemple de Bruno Retailleau qui demande donc qu'on accède de travailler jusqu'à 37 heures par semaine. Ça fait 1700 heures à l'année, avec un quota d'heures supplémentaires quand même de 300 heures. Est-ce qu'il faut augmenter la durée de travail momentanément sur une année pour compenser les pertes dues à cette crise sanitaire, Christian Jacob?
D'abord, ce n'est pas une proposition de Bruno Retailleau, c'est un sujet qu'on a longtemps débattu au sein du groupe Les Républicains. Je pense qu'il y a besoin de sortir du carcan des 35 heures. En revanche, si on travaille davantage, on doit être payé davantage.
Donc vous êtes d'accord pour 37 heures, payer 37
heures? Je pense qu'il faut laisser la liberté. Nous l'avons évoqué au moment... du débat sur la loi sur le travail, en disant qu'il fallait laisser la liberté au sein de l'entreprise, dans un cadre défini, qui est celui de la limite des 40 heures, de pouvoir donner la possibilité de travailler 37, 38, 39, 40 heures, à condition, bien entendu, que toutes ces heures soient payées. Et ça permet à la fois d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés de manière significative et en même temps de redonner de la compétitivité aux entreprises parce que ça permet de baisser le coût. Donc si un des éléments qui ressort de cette crise, c'est notre dépendance aux puissances étrangères sur la santé, on l'a vu avec la Chine, ou même sur l'alimentaire, qui est aussi un sujet très, très important, où la France et l'Union européenne doivent retrouver leur autonomie, il faut gagner des points de compétitivité.
Alors écoutez justement cette question en plus qui vous est adressée par un syndicaliste CFTC. C'est la question.
Le grand jury, la question en plus.
Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Monsieur Jacob, bonjour.
Bonjour.
Certains voudraient remettre en cause aujourd'hui la durée du travail dans notre pays. Or, vous savez qu'aucun texte n'interdit à un chef d'entreprise de faire travailler ses salariés au-delà de 35 heures. Le fond du problème n'est-il pas, dans cette compétition internationale, le fait que nous subissons de plein fouet une concurrence déloyale, notamment de la Chine, en matière fiscale, en matière environnementale et en matière sociale. Et tant que nous n'aurons pas le courage de régler ce problème de cette concurrence déloyale, nous n'y arriverons pas. Merci, Monsieur Jacob.
Voilà, Christian Jacob, la question n'est pas la durée du travail, mais la concurrence des autres pays, dont la Chine.
Je partage complètement cette analyse. Je vais y répondre en deux points. Sur la durée du temps de travail, moi, je pense qu'il faut sortir du carcan des 35 heures, le faire, encore une fois, dans le cadre de l'entreprise et autour d'un consensus social. Là où les entreprises sont de trop petite taille, on peut le faire par branche. Mais il faut sortir de cela.
Mais jusqu'à combien, Christian Jacques, soyons précis. Est-ce que c'est 37 heures? Est-ce que c'est 39 heures?
Non, mais je voulais, le maximum. Mais peut-être n'avez-vous pas été attentif.
Ben,
je vous l'ai dit.
Peut-être pas, vous allez dire.
J'ai dit, on peut être dans la limite des 40 heures.
40 heures.
Mais le débat autour d'un consensus social dans l'entreprise ou dans la branche, et c'est comme ça qu'on peut le dire, et c'est bien entendu des heures payées. Ensuite, la question de la compétitivité est essentielle. Et c'est là qu'on a besoin d'une Europe politique beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui, sur les normes sociales, sanitaires et environnementales. Pourquoi je me suis opposé? Pourquoi notre groupe parlementaire, nos deux groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, se sont opposés aux accords du CETA, par exemple? Eh bien, c'est parce qu'on accepte cet accord de libre-échange avec le Canada. On accepte des importations de pays qui ne respectent pas les mêmes normes que nous. Par exemple, sur la viande bovine, les Canadiens, et c'est leur liberté, autorisent la possibilité d'utiliser des hormones de croissance ou des farines issues d'animaux pour nourrir leurs bovins. Nous, depuis 1994, c'est interdit en France. Donc on a des règles là de concurrence qui sont totalement déloyales. Et donc on doit absolument imposer ces normes sociales, sanitaires, environnementales dans les accords de libre-échange. Alors, et c'est ça la compétition saine. Et pour ça, il nous faut une Europe politique beaucoup plus forte qu'elle n'est aujourd'hui et pas une Europe de technocrates.
Un petit mot encore du temps de travail, parce que c'est très important dans les propositions faites par les Républicains, en l'occurrence par le numéro 2 Guillaume Pelletier. Il y a aussi l'idée de supprimer 5 jours de RTT en augmentant les salaires afin de financer la santé et l'agriculture dans cette phase qui va s'ouvrir de reconstruction économique. Est-ce qu'on peut à ce point demander un effort aux Français qui serait de supprimer encore 5 jours de repos?
Tout cela, ces propositions se rejoignent et sont les mêmes. Sont celles de redonner de la souplesse, encore une fois,
l'idée de travailler plus.
Autour d'un consensus social. Encore une fois, ça ne peut pas se faire, ça ne se décrète pas. C'est dans le cadre de l'entreprise, en fonction aussi du carnet de commandes de l'entreprise. Parce qu'il y a des moments où l'entreprise a des marchés et des moments où elle n'en a pas. Et donc ça, c'est ça le vrai dialogue social dans l'entreprise. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on évolue et arrêter de penser que c'est l'État qui va décider de tout sur ces sujets. Laissons les entreprises et les salariés au sein de ces entreprises de trouver les bons moyens de consensus, de rémunération et de temps de travail en les globalisant.
Mais dans les propositions que vous faites, il y a aussi des mesures qui dépendent de l'État. J'ai noté l'annulation des charges fiscales et sociales le temps du confinement, la défiscalisation des heures supplémentaires. Est-ce que vous avez chiffré ce que coûteraient toutes ces mesures de relance?
Alors, sur la mesure d'annulation, il semble que le gouvernement, je crois, l'ait repris. Enfin, je n'ai pas eu la confirmation, mais plusieurs informations qui me disent que le gouvernement l'aurait déjà repris.
Des charges.
Oui, mais je crois que justement, ils ont évolué parce que Moi, j'ai été 20 ans chef d'entreprise, j'ai aussi été ministre des PME, et je sais que sur la vie d'une entreprise, le défaut de trésorerie peut être très vite catastrophique. Et donc, il y a intérêt à redonner de l'oxygène tout de suite, parce que si jamais vous avez un premier défaut de paiement, après vous avez l'URSSAF, les impôts, etc., tout qui se met en vrille, et donc c'est la chute inexorable. Donc c'est pour ça qu'il faut aller, à mon avis, vers de l'annulation sur le temps où il n'y a pas d'activité, où il y a eu d'ailleurs des fermetures administratives. Donc ça, c'est une mesure qui me semble très, très importante. Et le deuxième élément de votre question,
c'était la défiscalisation des heures supplémentaires.
Sur la défiscalisation, ça aussi, c'est une mesure sociale et fiscale. Il faut faire les deux leviers.
Quoi qu'il en coûte.
Oui, mais parce que, encore une fois, on a besoin de redonner, pour relancer la machine économique, il faut redonner de la compétitivité aux entreprises.
Mais avec quel argent, Jacob, comment ça
alors, sur le coup, vous m'avez posé... Ce que l'on estime aujourd'hui, c'est que, et c'est un chiffre sur lequel il semble que tout le monde s'accorde, c'est qu'il y a eu à peu près 60 milliards d'euros qui n'ont pas été dépensés dans l'économie avec le temps du confinement. Donc, et c'est pas quand on va déconfiner que ces 60 milliards vont revenir sur le marché. Vous n'allez pas aller au restaurant 4 fois par jour. Donc, on voit bien qu'il y a là une épargne, d'où une des propositions très intéressantes.
Les ménages français ont des stocks, vous voulez dire, ils ont de l'argent.
Ben, c'est-à-dire que vous avez, par le confinement, vous avez des dépenses qui n'ont pas été occasionnées.
Mais il y a aussi des recettes qui n'ont pas été occasionnées.
Vous n'avez pas pris votre voiture pour aller travailler, vous n'avez pas eu de frais extérieurs, etc.
Donc, d'où le livret C d'Eric Woerth.
D'où, voilà, une proposition très intéressante qui est celle d'Eric Woerth avec l'idée du livret C. C'est comme Covid, qui pourrait permettre de créer un fonds d'épargne qui viendrait en aide aux PME notamment, mais bon, PME, TPE, enfin, toutes les entreprises. Et Eric Woerth l'a conçu sur une logique d'investissement, en disant on ne doit pas intervenir, bien entendu, sur la dépense de fonctionnement, mais sur de l'investissement, donc qui est créateur d'activité et d'emplois.
Eric Woerth, qui a aussi beaucoup d'idées et qui est très attaché à la rigueur sur les déficits publics, vous dites dans vos propositions il faut un moratoire d'un an sur les impôts. Et après, est-ce qu'on pourra ou sera obligé d'augmenter la pression fiscale pour compenser le manque à gagner que l'on vient de connaître?
Moi, je pense que vraiment, il ne faut pas avoir recours à l'impôt. Encore une fois, si la dépense publique était un gage d'efficacité, la France serait championne du monde. On est les champions du monde des prélèvements obligatoires et fiscaux. Arrêtons.
Mais donc, tout passera par la dette,
donc,
si vous voulez pas.
Ça passera. Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois un travail sur la dépense publique. Je veux dire, il ne faut pas s'exonérer de ce travail sur la dépense publique. Mais on sait aussi qu'on a besoin d'amortisseurs sociaux. D'ailleurs, on l'a bien vu. La mesure de chômage est une bonne mesure.
Là. Comment ? Vous proposez plutôt des dépenses publiques supplémentaires. Dans la fiscalisation des heures sup,
oui, parce que
des annulations de charges.
Si l'entreprise tombe, ça coûte beaucoup plus cher.
Donc vous voulez faire des économies ailleurs.
Une entreprise qui fait faillite, les conséquences sont beaucoup plus chères et sont plus chères sur le plan social, parce qu'il faut prendre tout le personnel qui se retrouve au chômage, les dettes, etc. C'est pire que tout. Donc, il y a une idée qui a été évoquée dans les colonnes d'un excellent journal que Guillaume Roquette connaît bien, sur une proposition de François Baroin sur la monétisation de la dette. Et c'est ça a été proposé par François Baroin. On est en train de travailler sur cette idée qui permettrait effectivement d'éviter d'être bloqué dans les deux mâchoires, c'est-à-dire celle de dire on va mettre plus d'impôts ou on va supprimer les amortisseurs sociaux. Moi, je pense que la dépense publique mérite, et encore une fois, moi je salue le travail d'Eric Woerth, mais aussi de tous nos députés Les Républicains là-dessus, sur la dépense publique, mais n'allons pas sur de l'impôt.
C'est l'heure de Question Express.
Le grand jury, Question Express.
Christian Jacob, pour ou contre la nationalisation temporaire d'Air France ?
Je suis là aussi réservé de manière générale. L'État a différentes manières de pouvoir intervenir. Ça n'est pas automatiquement par la nationalisation, mais il peut intervenir dans le capital
comme
lorsqu'il est
actionnaire.
Voilà. Ce n'est pas une nationalisation.
En effet, pour ou contre l'abandon de la réforme des retraites ?
Telle qu'elle a été présentée, oui, cette réforme n'avait ni queue ni tête, personne n'y comprenait rien. Je pense qu'il faut vraiment remettre ce travail à plat, c'est 3 ans pour rien.
Pour ou contre l'abandon de la réforme des allocations chômage ?
Je pense qu'il faut stopper, il faut conserver les amortisseurs sociaux tels qu'ils sont aujourd'hui, ils viennent de montrer leur efficacité.
Pour ou contre une équipe de personnalités politiques transcourant pour diriger la France
après la crise.
On n'a pas besoin de ministre en plus. On a besoin d'avoir un travail sérieux, c'est-à-dire d'une majorité qui est capable d'écouter son opposition, de travailler sérieusement avec. Et nous, la démonstration du travail sérieux, je crois que nous l'avons fait avec, encore une fois, beaucoup de sérieux, beaucoup d'efficacité aussi.
Pour ou contre, enfin, François Baroin, candidat en 2022 ?
Écoutez, la réponse viendra à ce moment-là, vous connaissez. Et mon attachement et le soutien que je lui apporte, mais ça n'est pas le sujet.
Mais on l'entend peu, Guillaume Roquette.
Il est très discret en ce moment, c'est pourtant le patron des maires de France.
Oui, écoutez, j'ai vu un papier dans vos colonnes hier, si j'ai bonne
publique.
Mémoire.
Mais
sa parole porte et faites-lui confiance. Vous savez, il n'est pas d'un naturel timide.
Donc il parlera bientôt.
Il parlera lorsque le moment sera
opportun. Lorsqu'il sera candidat à la présidentielle.
Voilà. Oh.
Il a l'air plus partant qu'il ne l'était.
Il est capable de parler sur beaucoup d'autres sujets, et notamment dans sa responsabilité.
Est-ce que vous le sentez plus
attendez,
partant,
dans sa responsabilité de président de l'Association des maires de France, où il a un rôle éminent, et on le voit à chaque congrès, chaque année, mais aussi le fait que c'est un acteur du quotidien dans sa ville de Troyes.
Bon, mais est-ce que vous avez l'impression que la présidentielle de 2022, il y pense davantage aujourd'hui au regard des événements ?
Je ne veux pas me substituer au grand jury, donc vous lui poserez vous-même
la
question.
Alors, on l'accueillera quand il veut, François Baroin. On lui lance l'invitation à nouveau. C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous.
Bonjour
Christian Jacob. Alors, les internautes découvrent ce matin une vidéo où l'on voit une vingtaine de personnes danser dans les rues de Paris. Ça se passe dans le 18e arrondissement. Il y a des badauds qui les regardent assez ébahis. Tout ça a provoqué un attroupement. Ensuite, la police est intervenue pour les verbaliser. On sent qu'il y a un relâchement à 2 semaines du début des confinements. Est-ce que, d'après vous, il faut durcir les sanctions ?
Je ne pense pas qu'il y ait besoin de durcir les sanctions. En revanche, il y a besoin que le confinement soit respecté. On a vu l'efficacité du confinement. Et on a tous vraiment une responsabilité collective, c'est-à-dire de rester chez nous et de respecter les instructions qui nous sont données jusqu'au bout.
Autre question.
Oui, alors le professeur Didier Raoult, sans être nommé, et ça a attiré les foudres de l'ordre des médecins qui le menacent à mots couverts de le suspendre à cause des protocoles de recherche clinique illégaux. Est-ce que pour vous, le Conseil de l'ordre des médecins est dans son rôle ?
D'abord, je ne suis ni médecin et encore moins au Conseil de l'Ordre, donc ne me demandez pas de me substituer à une décision du Conseil de l'Ordre.
Parce que ça provoque un débat au sein de votre propre
parti.
Mais
c'est un débat qui relève du Conseil de l'Ordre.
Vous en avez pris de la chloroquine, vous, ou pas, Christian
non.
Jacob
non.
Alors, comment vous percevez ce débat dans votre groupe ?
Christian Estrosi en a pris.
Et qui défendent Boyer, enfin, ce sont devenus les plus grands défenseurs, les plus grands avocats du professeur Raoult.
Moi, j'applique une règle simple, c'est quand je suis malade, je fais confiance à mon médecin. Et jusque maintenant, ça a plutôt bien marché.
Mais ils sont allés trop loin.
Vous posez la question. Je dis, je fais confiance à mon médecin. Et je prends ce que me prescrit mon médecin. Et encore une fois, jusque maintenant, ça m'a plutôt réussi. Donc, plutôt envie de continuer. Donc voilà, je ne vais pas me substituer à des débats qui ne sont pas... encore une fois, je ne suis pas médecin. Donc.
On a appris cette semaine que l'armée avait constitué des stocks de chloroquine. Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a refusé cette semaine de commenter. Est-ce que vous considérez que l'armée est dans son rôle en constituant des stocks d'un médicament dont on ne sait même pas s'il sera efficace pour lutter contre cette maladie ?
Il y a à l'armée suffisamment de médecins et de professeurs de médecine pour savoir s'il y a effectivement un intérêt à le faire ou pas. Mais nous demander, nous politiques, d'aller bientôt prescrire un médecin... je ne vais pas vous prescrire ce qu'il faut que vous preniez si vous avez la grippe ou si vous avez telle ou telle maladie. Je n'en sais rien, ça n'est pas mon métier. Et que chacun reste dans le cadre qui est le sien.
Vous êtes beaucoup plus prudent que certains des vôtres, on le remarque aujourd'hui.
Mais certains des miens sont aussi médecins.
Ceux qui se sont exprimés, pour beaucoup, ne l'étaient pas.
Je pense à mon ami Renaud Muselier,
qui est un médecin. Boyer et d'autres qui ont été, encore une fois, très allants sur cette question. Marie-Pierre Haddad.
Oui, alors il y a aussi une autre vidéo qui a beaucoup fait parler sur Twitter, où on voit des longues files d'attente de voitures devant les restaurants McDonald's. Donc certains internautes sont un peu tombés des nues en voyant cette réaction. Il y a eu aussi beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, quand vous avez vu ces images, vous vous êtes dit « c'est la vie qui reprend » ou au contraire, vous vous êtes dit « rien ne va changer » avec cette crise du coronavirus ?
Je ne sais pas, c'est sur quoi vous voulez me faire réagir, sur le fait...
Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu ces images ? Parce que ça vous a étonné de voir autant de files d'attente, il y a 3 heures de queue, des bouchons dans la ville, à cause de la réouverture des drives de McDonald's.
Bon, Écoutez, je suis pas, voilà.
Ça vous laisse sans
voix. Ce n'est pas une critique à McDonald's, mais je ne suis pas un habitué de ce type de restaurant. Ceci étant, on en a qui marche bien aussi à Provins. Mais voilà, je n'ai pas d'avis particulier. Moi, je reste sur un raisonnement qui est simple. C'est celui où il faut rester chez soi. Je fais partie, comme tous les Français, parfait, j'essaye de sortir le moins possible. Et de respecter les consignes.
Très rapidement.
On parle de produits de consommation alimentaire. Le secrétaire général de votre parti, Aurélien Pradier, propose de bloquer les prix de 100 produits alimentaires. Ça nous rappelle les années Mitterrand, c'est à gauche toutes, les Républicains.
Bon, j'aime beaucoup Aurélien, mais sur cette mesure, non, c'est pas... Le blocage des prix et alimentaire, c'est un paysan qui vous le dit... Je ne pense pas que ce soit une bonne. En revanche, et je pense que c'est à ça qu'Aurélien fait
on
allusion,
arrive à la fin de cette émission.
C'est parfois les marges que sont faites par certains réseaux de distribution qui sont choquants. Donc bloquons les réseaux de distribution et leurs marges.
Vous n'êtes pas d'accord avec Aurélien,
mais pas,
ça peut arriver. Merci à vous. C'est la fin de cette émission, on en reparlera. Très belle semaine à tous, à la semaine prochaine.